Radio Caravane, le cirque sur les ondes.
Vos yeux sont sur scène, vos oreilles dans les coulisses.
Salut à tous et à toutes. Welcome to the radio show. Vous êtes à l'écoute de Radio Caravane.
Découvrez les coulisses du festival à une semaine du début de l'Européenne de cirque.
Interview intimiste avec l'artiste catalan Jordi Aspa de Escarlata Circus qui nous parle des deux spectacles qu'il jouera à la Grainerie, Cabaret Petrifica et Pugilatus.
Rendez-vous avec Frida Oudman Production qui lève le voile sur son spectacle 1 et demi où l'on cherche à savoir qui de l'artiste ou de la marionnette tient les ficelles.
Rencontre avec Andréane Leclerc qui utilise la contorsion comme miroir de l'âme.
On finit avec Pierre Déo qui vous parle de son duo avec Mika Kaski qui mettent leur grain de sel à la Grainerie.
Nouveau durant l'émission, tentez de gagner deux plats de spectacle.
Ouvrez bien vos oreilles.
C'est quoi ce cirque?
Découvrez notre chronique sur les stéréotypes de cirque.
Radio Caravane, c'est parti!
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Radio Caravane s'entretient avec Jordi Aspa de la compagnie Escarlata Circus dans le cadre du Festival Européen de Cirque. Vous faites un solo, le Cabaret Petrifica et un spectacle Pugilatus élaboré avec Piero Steiner. Ce sont des spectacles qui seront présentés à la Grainerie de Toulouse et à l'usine de Tournefeuille du 23 mai au 28 mai.
Voilà.
Pouvez-vous nous décrire votre métier ?
Notre métier, c'est entre faire rire les gens et le faire surtout sentir qu'ils sont vivants et que les pouvoirs, ils sont dans leur cœur.
Dans votre spectacle solo, Cabaret Petrifica, vous racontez un peu une partie de vous, de votre expérience, de vos observations de vie.
C'est des expériences de vie que tout le monde peut se sentir concerné. On a commencé le spectacle à partir de la légèreté et la pesanteur, la grâce. On joue avec du papier aussi et il finit avec un gros poids à la fin. Et au milieu, il y a tout un voyage avec les éléments qu'il y a autour. Et on essaye d'en faire quelque chose de vivant. Et en fait, c'est un homme qui est là. Il est toujours les mêmes personnages, soi-disant, mais il se transforme. L'idée aussi du spectacle, c'était de montrer une facette de cet bonhomme et finir avec un dépouillement de cet bonhomme, quoi. Ouvrir les corps, les physiques, a changé complètement.
Est-ce que le fait d'être saltimbanque ou clown, c'est un entraînement quotidien? Est-ce que c'est...
Moi, je suis un peu feignant, mais dans la vie, on répète tous les jours des choses et on ne s'en rend pas compte. Mais c'est cette répétition que j'aime bien, c'est la répétition de la vie. Après, l'appliquer et faire une petite méthode pour répéter, pour travailler.
Concernant votre spectacle Pugilatus, d'où est venue cette collaboration avec Piero Steiner? Est-ce que vous avez tout de suite eu une complicité sur les mêmes idées?
Oui, oui, avec Piero, on s'est connus depuis très longtemps, on avait joué déjà à notre spectacle. En fait, c'est venu un jour en sortant d'un spectacle et quelqu'un nous a fait un commentaire, Piero l'a répondu à côté de moi, on était ensemble, on s'est regardé et on a dit on va faire un spectacle. Et c'est venu comme ça, voilà.
Et votre spectacle, pour faire prendre conscience, pour éduquer le public, il doit en ressortir un petit peu grandi, construit?
Ça, c'est des expériences personnelles et on ne se prend pas par des éducateurs de la vie, mais nous, on sert un plat et après, chacun, il les mange ou très vite ou il ne mange pas. Il les boit tout de suite ou il les digère très lentement, il les digère très rapide et il dit que c'est une caca.
Et justement, qu'est-ce qui fait rire ces deux clowns dans le spectacle?
Il y a un truc physique entre nous deux. Et chacun, il est dans le physique très différent à l'autre, un caractère. Et ce qui fait rire, c'est aussi que les gens peuvent se mettre à notre place. On rit de ça parfois. On sait rire parce qu'on connaît les situations où ils sont les personnages, en fait. On doit se sentir impliqué dans cette situation. Et on rit parce qu'on les trouve ridicules ou parce que c'est par là où on canalise l'émotion.
Concernant vos spectacles ou le cirque en général, quels préjugés vous gênent?
Il faut être honnête, il faut être humble dans la vie. Alors quand il y a pas une humilité, je ne sais pas si on dit humilité ou honnêteté, voilà, ça me dérange beaucoup.
Et donc une phrase que vous aimez entendre par contre.
Quand quelqu'un te dit la vie est belle, voilà.
Après le festival, quoi de prévu, des dates, des projets à venir?
Après Toulouse, on va à Montbéliard avec Cavalette Pétrifiée. Et après, il y a quelques dates comme ça qui sont en train de se coudre. Parce que, bon, tout va à la dernière minute dans notre pays avec cette crise, avec tout ça. Et il y a des choses qui sont tombées, il y a des autres qui arrivent. Mais sinon, il y a un projet pour ce Noël, pour faire un cirque, de mettre en scène un collectif. Je mélange aussi l'accompagnement artistique ou direction artistique des autres compagnies avec nos spectacles.
On écoute Frida Brickman de la compagnie Hotman Production.
Bonjour, je suis Frida Odenbrinkmann de la compagnie Hotman Productions. Je viens de la Norvège.
Vous sortez de l'école du cirque Piloterna en Suède et l'école du cirque Fratellini en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, j'ai fait un an d'école de cirque à Stockholm dans le pilote de cirque. C'est l'école de cirque cirqueur. Et puis après ça, j'ai voulu faire les 3 ans de l'université de danse à Stockholm, mais j'ai aussi tenté quelques écoles en France. Et comme j'ai entré à Fratellini, je me suis dit que c'est mieux d'y aller en France pour en profiter un peu le monde du cirque là-bas. Puis j'ai fait 3 ans de l'école du cirque à Fratellini, où j'ai spécialisé pour le jonglage et le filmou. Et puis j'ai sorti en 2008.
En 2006, vous avez gagné le titre de Solo Balbutin Number à l'International Jugglers Association qui se déroule aux États-Unis. Comment ça s'est passé?
J'étais dans la convention NGA aux États-Unis et puis avant le concours de balles rebond, je me suis dit bon, je vais essayer ça. Je sentais ça un peu ridicule de faire une olympiade de technique de jonglage. Mais comme j'étais la seule fille qui entre dans le concours, c'était quand même drôle. Et puis j'étais la plus forte. Il faut le faire 18 rattrapes au moins avec 9 balles. Et j'ai fait 26 ou un truc comme ça. Et les autres, ils n'ont pas réussi à faire le 18. Du coup, j'ai gagné.
Cette année, vous venez nous présenter votre premier spectacle 1 et demi.
À demi, c'est un spectacle de poupées aux marionnettes. Et le spectacle, il est basé sur ça. J'ai une poupée sur ma fesse et je fais ce personnage presque tout le spectacle. Et lui, il est un bonhomme un peu triste et un peu seul. Il doit recommencer dans sa vie à retrouver un peu de sa manière de faire la chose.
Le nom du personnage, c'est Antaro. Antero. Quelle est votre relation avec lui?
Je ne sais pas. C'est le personnage du spectacle. Dans le spectacle, je suis une femme qui est... Au début, c'est juste sa voix dans sa tête, mais plus en plus dans le spectacle, j'entre à faire sa copine. Mais la vie, je sais pas, c'est bien d'avoir un deuxième personnage, et c'est pas moi. Ça me rend plus facile de vendre le spectacle, dire des choses bien sur lui. Parce que c'est presque comme c'est pas moi, même si c'est une poupée posée sur moi.
Oui, vous avez appelé votre spectacle 1 et demi, c'est un peu comme s'il était votre moitié, non?
Oui, ou même lui, il est 1 et moi, je suis le moitié dans le spectacle. Il sort dans son dos.
Comment et pourquoi vous avez choisi d'utiliser une marionnette dans votre spectacle?
Eh bien, c'est plutôt que j'ai trouvé l'idée de le poupée. Déjà, j'ai prévu de faire un numéro de jonglage avec, mais quand j'ai trouvé que... C'était drôle quand il faisait des choses de quotidien. Je suis fait de recherches, j'ai fait tout un spectacle avec lui. Mais c'est surtout aux bases de le personnage ou le poupée. Mais...
Vous avez aussi une manière originale de manipuler la marionnette. Vous pouvez nous en parler de ça aussi?
Il est monté sur mes fesses.
Oui.
Dedans. Et puis, mes mains, c'est ses mains et ses pieds, c'est des chaussures qui sont montées sur mes pieds. Du coup, je vais tout à l'envers, tête en bas. Je rentre dans son personnage, quoi. Je fais comme je suis lui, mais avec la tête en bas.
Oui. C'est vous qui lui donnez vie.
Oui, c'est ça.
Et qui est-ce qui l'a fabriquée, la poupée, la marionnette?
La tête, c'est mon frère qui l'a fabriqué, le visage. Et puis moi, je l'ai traité avec le papel et le colle qu'il voulait. Et puis après, j'ai les bras et tout ça, j'ai fait moi-même. Mais la tête, c'est mon frère qui est marionnettiste et de poupée.
Comment se passe l'interaction avec le public? Parce que vous êtes de dos pendant tout le spectacle.
Je parle et puis je sors aussi de son dos de temps en temps. Du coup, je peux regarder le public aussi.
Est-ce que vous pouvez, vous avez des prochains spectacles, des dates à prévoir?
Oui, je rentre il y a 2 jours d'Espagne. Je suis là-bas et puis... je vais jouer à Suède en août et septembre, et puis je vais faire des tournées scolaires en Norvège tout l'automne, à partir de septembre jusqu'au décembre, le 5 janvier.
Vous auriez un site internet où on pourrait, si nos auditeurs ont envie de faire des recherches, où est-ce qu'on peut vous trouver?
Oui, c'est sur www.amazingantero.com.
Vous avez peut-être un coup de cœur ou une compagnie que vous avez vraiment envie de voir pendant le festival?
C'est le Magmanus. C'est un Norvégien et un Français qui a un spectacle très drôle. J'ai juste vu un travail en procès. Du coup, j'ai très envie de voir le spectacle en entier.
Mais merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir. Merci.
Ciao.
Radio Caravane, le cirque sur les ondes.
Vos yeux sont sur scène, vos oreilles dans les coulisses.
Place à Andréane Leclerc, contorsionniste émérite, qui nous parle de son travail d'artiste et ses performances.
Bonjour, je m'appelle Andréane Leclerc. En fait, je viens ici à Toulouse, à la Grainerie, pour l'European de cirque avec le spectacle chez Repaka. Mais j'ai fait l'École nationale de cirque de 1996 à 2001, où est-ce que j'ai gradué avec un numéro de contorsion. Ensuite, j'ai tourné pendant peut-être 6 ou 7 ans avec le numéro, entre autres avec le Cirque Éloise, avec le Cirque Starlight, j'ai fait les cabarets en Allemagne. Ensuite, j'ai commencé à faire des créations aussi en Allemagne avec une compagnie théâtrale et découvrir le processus créatif. Je suis retournée à Montréal, où est-ce que j'ai fait un master en théâtre que j'ai gradué en juin dernier. Au cours de ce master-là, j'ai créé la pièce chez Repaka qui remet en question la prouesse de cirque et la prouesse de contorsion, en l'occurrence.
Qu'est-ce qui est représenté dans le spectacle chez Repaka?
Chez Repaka veut dire tortue en russe, mais c'est juste venu à un certain moment dans la création. L'image de la tortue, une image très, très symbolique et importante pour le rapport chair qui meurt. Repaka est issu d'un mémoire de master qui interroge la prouesse, donc j'ai commencé à questionner la prouesse de cirque, genre de renversement des codes corporels, et je voulais passer d'un langage acrobatique vers un langage commun que le public pouvait décoder aussi. Donc je voulais renverser tout ce qui était la perception du spectateur envers la prouesse circassienne qui souvent est très douloureuse pour la contorsion, qui peut voir genre la mort, le danger, le risque, tout ça, et je voulais rencontrer cette perception-là du spectateur vers une perception de l'acrobate, pour moi qui est une sensation de vécu, tu vis un moment de présent, t'es à l'écoute, c'est une extrême conscience du corps, de l'espace, du sol, du rapport à la respiration, à l'environnement, et donc je voulais représenter ou faire rencontrer ces deux perceptions-là. Ce qui veut dire que dans le processus créatif, il y avait l'image de la tortue est venue assez forte pour avoir un rapport de la chair qui peut mourir et de toute sa carapace, en fait, qui peut rester plus comme un fossile qui peut traverser le temps. Donc, il y avait un rapport avec la dualité, le besoin de vivre et de contrôler un peu la mort, en fait, là-dedans. La mort de la tortue, c'est plus une image, c'est plus une peinture que j'ai en tête, en fait. On va pas voir une tortue mourir, là, sur scène, ou je ne tue pas de tortue non plus pendant le spectacle, non. Ça a été juste comme une base dramaturgique, une dualité qui m'a beaucoup, beaucoup nourrie dans mon imaginaire pour construire la pièce. Mon travail corporel est très très lent, ça fait très graduel, c'est ce que j'ai décidé de travailler. Je me suis beaucoup inspirée, comme je disais, de l'art visuel. Donc j'ai travaillé le corps sculptural, le corps pictural. Je me suis inspirée beaucoup des tableaux de Francis Bacon qui est venu s'introduire pendant le processus encore une fois. Donc en s'inspirant des tableaux de Francis Bacon, il y a eu Gilles Deleuze et la logique de la sensation qui est venu aussi. Donc tout ça a comme dialogué ensemble. Et après ça, dans les choix que j'ai faits de conception, c'est je travaille sur un environnement sonore électro-acoustique. Il y a une partie qui est faite live, j'ai un micro contact avec lequel qui prend directement les sons de mon corps sur la plateforme avec laquelle je joue. Fait que je pense que tout ça mis ensemble, un corps très lent, contorsion pendant 55 minutes, musique électro-acoustique, ben ça crée un certain genre d'hypnose, mais c'est pas ce que je recherchais. Je pense que ça vient un peu de par lui-même. Je dirais que ce qui m'a beaucoup plus intéressée pour la relation au spectateur, ça a été de travailler plutôt une écriture de sensation et de vouloir parler au spectateur plutôt par le corps et par sa sensation. Donc, la façon que j'ai travaillé le corps, j'ai essayé de donner toujours des points d'appui que le spectateur pouvait décoder physiquement selon sa logique. Donc, jamais montrer le sensationnalisme de la contorsion, mais toujours suggérer, en fait, des relations à même le corps pour qu'il puisse physiquement ressentir, parcourir un voyage quand même physique au-delà de sa logique intellectuelle pour qu'il puisse recréer en fait son propre imaginaire mental.
Vous faites aussi une performance en association avec le sculpteur Nicolas Malichka. En fait, vous faites une liaison avec le sculpteur et vous. Est-ce que votre corps n'est plus que matière, du coup?
Ben, je conçois vraiment mon corps comme une matière, en fait, dans tout ce que je fais. Avant de faire Chirépaka, j'ai fait une autre pièce qui s'appelle Disparu, que je me suis intéressée beaucoup à la phénoménologie. Donc, j'ai cherché un corps vécu, j'ai cherché le détachement entre l'âme et le corps, de faire mon corps un objet de représentation. J'aime concevoir mon corps justement comme une matière d'écriture scénique. Mettre mon corps en relation avec le spectateur, c'est lui qui est le pont entre moi, acrobate, et spectateur qui regarde ce corps-là. Mon seul point de rencontre, c'est par lui. Donc, oui, je conçois mon corps comme une matière. Pour la performance à l'espace Croix-Baragnon, au sein de sculpture, donc tout le rapport aux arts, aux beaux-arts, à la sculpture, à la peinture, m'intéresse beaucoup. Je vis aussi beaucoup de modèles vivants, donc ça s'inspire beaucoup de modèles vivants, mais aussi dans cette performance-là, je veux renverser toute la notion d'éphémérité, de l'art vivant versus la longévité, en fait, des beaux-arts qui peuvent rester, qui sont là avant, après. Je veux dire, il n'y a pas la notion de performativité. Comme toutes les sculptures, il y a moi qui est dedans, donc tout le rapport à la vie, à la mort, au temps, le rapport à la matière. Il y avait, encore une fois, il y a tout le rapport à la chair du corps. Puis j'espère stimuler aussi, encore une fois, l'imaginaire que le spectateur va pouvoir juste prendre, recevoir. En fait, je vois ça comme un don pour qu'il puisse voyager après avec.
Vous faites aussi un duo avec Sandrine Maisonneuve, avec la compagnie Mandrake. Vous pouvez nous en parler?
Alors oui, ben en fait, ça va être un travail in situ. On s'est rencontrés hier, c'est une rencontre esthétique. Mais ce qui était très intéressant, c'est que les deux, on a un passé en fait sur la création en direct. Je vous ai parlé un peu de phénoménologie, que je me suis intéressée de travailler là dans le moment présent, de justement d'être à l'écoute, mais de tout ce qui est... c'est pas de l'improvisation, c'est toute une construction sur le moment, que je sais que ça l'intéresse beaucoup, mais là, on commence à travailler cet après-midi. Ça va être la première direction qu'on va prendre. Il y a la notion de plasticité qu'on veut intégrer là-dedans, mais c'est une rencontre, donc on va voir où est-ce que ça va mener, mais c'est basé principalement sur la création en direct.
Tu joues quand au Festival européen de cirque, à la première date?
Alors, il y a le 25 mai à l'espace Croix-Baragnon. Il y a le 28 mai à l'usine avec la performance in situ avec Sandrine. Il y a le 29 mai chez Répaka à l'usine et le 6 juin chez Répaka à la Grainerie.
Donc on invite les auditeurs évidemment à se tourner vers le site www.lagrainerie.net pour réserver les places, pour avoir les dates. Merci.
Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview.
Ben, ça me fait plaisir, merci de m'avoir reçu.
Tous en selle, avec Pierre Déo qui nous présente son spectacle Le Grain.
Moi je m'appelle Pierre Déo et donc je fais partie du spectacle Le Grain. Voilà, c'est un duo avec quelqu'un qui s'appelle Mika Kaski, qui n'est pas avec moi en ce moment. Je fais du cirque, je fais du théâtre, suivant les projets, et là en l'occurrence, c'est un spectacle de cirque.
Très bien. Et pourquoi Le Grain comme nom de votre spectacle ?
Eh bien, Le Grain, c'est parce que un de nos accessoires a été un grain de raisin.
Okay.
On a travaillé autour de ce spectacle et on aimait bien le côté ouvert de ce mot qui est dans plusieurs expressions françaises et qui peut avoir plusieurs significations.
Quel est votre parcours ?
Moi, j'ai fait du théâtre d'abord, après le bac. J'ai fait plusieurs écoles de théâtre et ensuite j'ai fait une école de cirque à Châlons en Champagne et j'ai appris le funambulisme là-bas. Et puis j'ai fait des écoles de théâtre à Paris, des écoles privées et ensuite le Conservatoire National de Théâtre. Et puis après ça, après les écoles, j'ai fait à la fois donc d'un côté du théâtre et de l'autre côté du cirque. Et puis de temps en temps je suis metteur en scène et de temps en temps je suis sur scène.
Comment s'est faite votre rencontre avec Mika ?
Avec Mika ?
Oui.
Alors Mika, on s'est rencontrés à l'école à Châlons. Dans l'école de cirque, il y a un gymnase où il y a tout le monde qui travaille en même temps côte à côte. On travaillait, lui d'un côté, moi de l'autre, et on a commencé à imaginer des choses ensemble comme ça. Et on a fait plusieurs spectacles avant celui-là ensemble. Mais c'est le premier qu'on fait en duo que tous les deux.
Quelles sont les disciplines de cirque que vous abordez dans votre spectacle ?
Alors dans ce spectacle, on travaille autour des portées acrobatiques, autour des équilibres sur les mains et autour du hula hoop pour ce qui est les disciplines acrobatiques. On fait aussi de la musique et en fait on a réfléchi à des disciplines qui demandaient pas beaucoup de matériel à transporter. Et au final, donc, notre spectacle, les accessoires de notre spectacle tiennent dans deux sacs à dos, ce qui nous permet d'ailleurs là de partir à vélo, c'est-à-dire que là on va jouer à la grainerie vendredi soir, on va jouer à la maison du vélo samedi, et ensuite on part dans le Tarn avec juste des vélos et les accessoires de notre spectacle sur des remorques.
Vous avez été aidé pour la mise en scène ?
Oui. On a écrit ce spectacle avec Stéphane Broulot, qui est un ami qui vient du théâtre aussi, et qui a co-écrit le spectacle avec nous. Voilà, il nous a accompagnés pendant plusieurs semaines de travail. Et maintenant, on continue. Depuis la première, on travaille tout seul, on continue tout seul, mais lui, il était là sur toute la préparation.
Que pensez-vous de la performance physique dans le cirque ?
La question qu'on s'est posée par rapport à la performance physique sur ce spectacle, c'était savoir à partir de quel moment ça devenait une performance. Par exemple, il fallait savoir faire un minimum, un saut périlleux pour que ça devienne de la performance, ou est-ce qu'au contraire, c'était la performance, elle commençait à être là par rapport à nos propres limites. Si moi j'ai jamais fait de cirque, peut-être que juste sauter en l'air en écartant les jambes, ça va déjà être une performance. Alors que si j'ai déjà fait du cirque depuis très longtemps, peut-être qu'un saut périlleux, ça va plus être une performance, parce que c'est trop facile pour moi. C'est pour ça qu'on a appris des disciplines qu'on connaissait pas. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais fait de portée acrobatique, ni de hula hoop. On a construit ce spectacle autour de disciplines qui étaient nouvelles pour nous.
Comment vous faites pour susciter le rire ?
On cherche pas forcément le rire. Le fait d'être débutant dans une discipline, ça va faire qu'on va pas la faire pareil que si on est très expérimenté. Et donc il y a quelque chose qui est fragile là-dedans, qui nous plaît, qui peut susciter le rire, mais qui peut susciter autre chose aussi.
Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans votre spectacle ?
Ouais, il y a des choses qui sont différentes suivant comment ça se passe à chaque fois.
Vous pouvez nous rappeler les dates du spectacle lors du festival ?
Alors, c'est vendredi 23 mai, et ensuite on joue aussi jusqu'au 28. Samedi 24, c'est à la Maison du Vélo, en face de la gare à Toulouse. On joue à Cuctoulza, qui est un petit village du Tarn, le dimanche. Et le mercredi à Lautrec, c'est dans le Tarn, c'est un petit village du Tarn, le mercredi, au Café Plume. Donc voilà, c'est la tournée à vélo qu'on appelle la tournée Toulouse-Lautrec. Et on aimerait aussi faire une tournée à vélo un peu plus grande, qui durerait sur un mois l'été prochain.
Avez-vous un site pour avoir l'actualité de vos différents spectacles ?
C'est le-grain.info.
Ouais, voilà. Merci, au festival. Au revoir.
Quand
profitez de remporter dès maintenant deux places pour le spectacle Cabaret Petrifica de la compagnie Escalata Circus à La Grainerie, à Balma, le samedi 24 mai à 20h30 en répondant correctement à la question qui va suivre. Pour répondre, postez un commentaire sous l'article « Je concours » émission 2 sur le site radiocaravane.net. Attention, voici la question. Le samedi 24 mai, juste après le cabaret Petrifica d'Escalata Circus, quelle compagnie vous pourrez retrouver gratuitement en scène à La Grainerie? Vous avez jusqu'au vendredi 23 mai à 20h pour participer. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses sera effectué dans la foulée. Le ou la gagnante sera contacté directement par email. Bonne chance!
Eh, c'est quoi ce cirque ?
Les stéréotypes du cirque.
Alors, si je vous dis le mot cirque, vous pensez à quoi ?
Les clowns, trapèzes, zavata, tout ça quoi.
Le cirque traditionnel apparaît au XVIIIe siècle, commençant principalement par les écuyers. Le cirque est itinérant, il appartient à une famille qui se transmet le savoir, il monte le chapiteau, les animaux sont présents, Monsieur Loyal et la clownerie aussi. L'émotion se fait dans le danger, le rire, le risque et dans l'exploit.
Si je vous dis le mot cirque, vous pensez à quoi ?
Clown. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, le cirque traditionnel connaît une crise, une désaffection du public liée à la radio et à la télévision. Dans les 70s, des jeunes artistes de cirque essaient de renouveler les arts de cirque avec quelques modifications, comme le lieu de scène, la disparition des animaux et de Monsieur Loyal, en remplaçant avec de nouvelles disciplines comme le théâtre, la danse et plein d'autres encore.
Si je vous dis le cirque, vous pensez à quoi ?
Cirque plume.
Le cirque existe depuis l'Antiquité. Il y a plus de 3000 ans, les Égyptiens organisent des défilés d'animaux sauvages. C'est sous les Romains que le stade où étaient organisés des combats de gladiateurs, des bestiaires, des défilés de voltigeurs à cheval et autres activités, qu'il prit le nom de cirque. Il y eut un grand succès, plus de 300 000 personnes assistaient au spectacle. Au Moyen-Âge, se développent des groupes de personnes vivant de façon nomade, qui se déplacent de ville en ville pendant les foires et les marchés, présentant principalement des spectacles, des numéros d'acrobatie, de jonglage et de domptage. Ils se nomment les saltimbanques.
Si je vous dis le mot cirque, vous pensez à quoi ?
Jongleurs, chapiteaux, animaux... Enfant, clown.
Qu'est-ce qu'évoque le cirque pour vous ?
L'amusement, la joie, l'ambiance, le spectacle.
Et si je vous dis le mot contorsion ?
Contorsionniste, une petite chinoise qui se plie dans tous les sens, voilà.
Femme asiatique, cirque du soleil.
Et la contorsion, les contorsionnistes, tout ça, ça vous fait penser à quoi ?
Flexibilité, travail, assiduité. Donc, dans l'ensemble, c'est ça vraiment. J'imagine que c'est pas vraiment évident. C'est beaucoup de travail à faire pour garder la flexibilité et l'aisance sur scène.
Et la contorsion, ça vous évoque quoi ?
Je sais pas, la contorsion, des choses que j'arriverai jamais à faire.
Et la contorsion, ça vous fait penser à quoi ?
Sexe, hein, pas du
sexe.
Le mot contorsion.
Bah, acrobate.
Et la contorsion, ça vous fait penser à quoi ?
La contorsion ?
Ouais, les contorsionnistes.
Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Nous tenons à remercier Anthony Barat qui a composé les musiques du spectacle de Frida Brinkmann de Hodman Productions pour nous avoir permis d'utiliser ces musiques.
Radio Caravane, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les interviews complètes et les photos sur votre site radiocaravane.net et sur les réseaux sociaux. Et réservez dès à présent vos places sur le site la-grainerie.net. On se retrouve même jour, même heure, même fréquence et que le cirque soit avec vous.
Marre de votre quotidien, marre de courir dans la rue sans en profiter, ralentissez et pavanez-vous sur le pavé avec un véritable safari circassien dans toute la ville le dimanche 25 mai.
À partir de 16h, depuis la Dorade, retrouvez les équipes franco-espagnoles des chemins émergents
Et en fin de balade, une performance artistique faite de chair et de bois vous attend à l'espace Croix-Baragnon à 18h. Toutes les infos sur www.la-grainerie.net.
Parcours organisé par le Festival L'Européenne de Cirque.
Radio Caravane, c'est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle proposé par la Grainerie, Gudule et Galipette et Iva Sound Studio. Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion va s'initier aux techniques radio et web média. Ils couvrent le Festival L'Européenne de Cirque en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.